Alors, ce matin, je voudrais partager sur le thème la valeur de la sagesse pour l'établissement. La valeur de la sagesse pour l'établissement. La valeur de la sagesse pour l'établissement. Nous sommes dans l'année de l'établissement divin, n'est-ce pas? Et il est important de savoir que pour pouvoir expérimenter tout établissement, il y a une certaine sagesse que tu dois adopter. La sagesse, c'est quoi, bien-aimé? C'est une certaine forme de vie. C'est un certain comportement. C'est une certaine manière de faire, de penser et d'agir. Alléluia. Et d'agir. La sagesse, c'est quoi, bien-aimé? C'est la pratique d'une certaine philosophie de vie. Amen. C'est la pratique d'une certaine philosophie de vie. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent que Dieu fasse des choses dans leur vie. Beaucoup de gens veulent voir des choses dans leur vie, mais ils ne sont pas prêts à changer d'attitude, ne sont pas prêts à changer de comportement, ne sont pas prêts à évoluer dans leur manière de penser. Et c'est ça qui est un problème pour nous. C'est ça qui est un problème. Proverbe chapitre 29, le verset 11. Proverbe 29, le verset 11. La parole de Dieu dit, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Alléluia. Je vais la lire dans la version expliquée. La version expliquée, qu'est-ce qu'il dit à partir du verset 11? Alléluia. La version expliquée dit ceci. L'insensé met en dehors toute sa passion, la même chose, mais le sage la contient. Que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. Alors, je vous ai dit que la sagesse, c'est une manière de faire, de penser et d'agir. Alléluia. C'est une philosophie de la vie. Il est important de comprendre que chaque fois que tu veux évoluer dans la vie, tu ne peux pas garder les mêmes comportements et les mêmes attitudes. Tu ne peux pas garder la même manière de faire, la même manière de penser, la même manière d'agir. Parce que les environnements ne sont pas les mêmes. Alléluia. Les environnements ne sont pas les mêmes. La manière que tu vis chez toi, ce n'est pas la manière que tu vas vivre à l'entreprise. Alléluia. Ce n'est pas la même manière que tu vas vivre dans ton foyer. Amen. Si tes parents toléraient un certain nombre de comportements, ton mari ne tolérera pas cela. Ton patron ne tolérera pas cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même tes amis ne tolérerons pas certaines attitudes vis-à-vis d'eux. C'est pourquoi nous devons évoluer dans notre manière de faire. Si nous voulons atteindre un certain niveau avec le Seigneur, nous devons changer plein d'éléments dans notre vie. Voyez, le mot sagesse n'est pas seulement est un nom abstrait. C'est un nom abstrait, tout comme l'amour, la justice, la haine. Mais nous pouvons la reconnaître à son fonctionnement. Nous pouvons la reconnaître à son action. Nous pouvons la reconnaître à son application. Et dans ses opérations, ses transactions et ses applications, la sagesse affecte l'ensemble de notre personne. Au quotidien, tu as besoin de la sagesse dans chaque domaine et dans chaque décision que tu vas prendre au quotidien. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. La sagesse affecte notre volonté, affecte notre intellect, affecte nos émotions, notre esprit, notre âme, notre corps. D'où le texte que nous venons de lire, Proverbe chapitre 29, verset 11. Il dit, l'insensé met en dehors toute sa passion, toutes ses émotions. Quand un insensé fait face à des situations, il balance tout. Alléluia. Il balance tout. Mais le sage sait contenir ses émotions. Le sage sait contenir ses émotions. Devant ton mari, tu bavardes n'importe comment. Ah, bah, 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 bah. Tu oublies que c'est ton mari. Alléluia. Tu oublies que c'est ton mari et qu'il a un droit sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque tu es devant ton chef, tu parles n'importe comment. Tu oublies que c'est ton chef. Lorsque tu te retrouves au milieu de tes amis, tu racontes n'importe quoi parce que tu penses que c'est seulement l'amitié. L'amitié n'est pas une prise en charge. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des amitiés que tu vas perdre parce que tu as un sale comportement, un mauvais caractère. Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais. Écoutez, mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent seuls, qui marchent seuls, pas parce que les gens étaient mauvais vis-à-vis d'eux, c'est parce qu'ils avaient un mauvais comportement. Et c'est parce qu'ils ont un mauvais comportement. Je vous dis, bien-aimés, si vous voyez quelqu'un qui, partout où il se retrouve, n'a pas d'amis, il faut se poser les questions. Alléluia. Même le diable a une femme. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit même le diable a une femme. Même le diable. La reine de la côte, vous parlez tous les jours, ce n'est pas sa femme. Alléluia. Oh, moi j'aime rester seul, moi j'aime pas. Non, Dieu a créé l'homme comme un être sociable. Dieu a créé un homme comme un être sociable. Rappelez-vous, le Seigneur dit quoi quand il constate le désir d'Abraham? Il dit, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais toi, tu dis qu'il est bon que je sois seul. C'est que tu as un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, il n'était pas bon que l'homme soit seul et il va lui faire une aide semblable. Dieu te fait plein d'aides semblables, tu jettes. Tu balances au champ et puis tu accuses toute la République. Le problème, c'est la sagesse. Le problème, c'est la sagesse. Beaucoup d'hommes ont perdu des opportunités dans leur vie parce qu'il leur a manqué la sagesse. Beaucoup de gens sont passés à côté de certaines portes ouvertes de leur vie parce qu'il leur a manqué de la sagesse. La sagesse pour savoir comment parler. La sagesse pour savoir comment penser, la sagesse pour savoir à quel moment parler. Regardez Basti, elle a manqué de sagesse. Elle a dit une parole au moment où il ne fallait pas et elle a été disqualifiée. Alléluia. Alléluia. Regardez Esther à côté. Lorsque Esther réussit, lorsque Esther apprend le complot d'Aman, elle ne se précipite pas pour aller dire à son mari. Non, parce qu'elle connaissait les règles. Et la Bible dit que celui qui entrait en présence du roi, sans que le roi ne l'ait appelé, il mourait. Esther dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convoquer le patron de mon mari. Alléluia. Il faut aller rencontrer son patron. Son patron, c'est qui? C'est Dieu. Elle a pris 3 jours de jeûne. Elle a dit à son nom, mon nom, ça c'est le jeûne de la mort. Ça c'est le jeûne de la mort. Où ça passe, où ça casse. Et lorsqu'elle a approché devant le roi, Dieu avait mis le parfum du jeûne autour du mari. Le mari a eu ce qu'on appelle chez nous le tobasi. Alléluia. Il regardait comme s'il ne voyait qu'Esther. Il a tendu la canne et dit, maman, même si c'est la moitié de mon royaume, je te donne. Esther dit, papa, tout ce que je veux, viens manger à la maison. Ça fait longtemps. Viens manger à la maison. Je t'invite même avec papa Aman. La sagesse. Et la Bible dit que papa Aman est arrivé, il a mangé, il a bu, il est sorti du mince. J'ai assisté à une fête privée. Il n'y avait que le roi, moi et maman Esther qui s'est vantée. Le roi, à la fin de la fête, dit, maman, qu'est-ce que tu veux? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te dis, papa, viens encore manger demain. Alléluia! Le lendemain, viens encore avec papa Aman. Papa Aman, voilà une fête privée, VIP, VVP. Alléluia! Et il s'est retrouvé à la fête, il a mangé. Deuxième jour, le roi dit, maman Esther, tout ce que tu demandes, même si c'est la moitié, je te donne. Il dit, papa, viens encore demain. Le troisième jour, elle a ouvert la bouche. Elle lui a dit, papa, mon peuple, ma famille est en train de mourir. Il dit, quoi? Comment ça? Je pensais que tu venais du village de X ou bien de Y. Il dit non, mon village c'est tel. Et il y a quelqu'un qui s'est levé pour nous finir. Il dit, ah, c'est qui? Il mangeait là à côté de nous. Ah! Aman a vu en une minute, sa vie passée devant lui. Toutes ces bénédictions. Il dit, il y a des faits, je vous dis bien aimé, il y a des faits qu'il faut refuser parce que la fête, là, tu bois ton sang et tu manges ta chair. Et ce jour-là, la sagesse est avec Esther. Le roi était rempli de foulée. Avec le roi est parti, il a réfléchi. Et Aman est tombé au pied d'Esther. Esther, sauve ma vie. C'est fini. Le roi a mangé 2 jours ta nourriture. Dieu, il est déjà dans tes mains. Sauve-moi. Esther va discuter. Et le roi, quand il va arriver, tellement il était en colère qu'il va croire que Aman est en train de violenter Esther. Il dit, prenez-le. Et quand on l'attrape, il y a un gars qui sort, on ne sait pas où il sort. Son problème était quoi avec Amano, on ne sait rien. Mais la Bible dit qu'il va arriver, il va dire, oh roi, il a même dressé une... il a dressé une potence pour m'adocher. Il dit, ah, allez le pendre sur ça. Ah, bien aimé, j'ai dit à quelqu'un ce matin, ce que l'ennemi avait cherché, ce que l'ennemi avait établi pour te tuer, c'est par cela qu'il va tomber. C'est avec cela qu'il va tomber. C'est avec cela qu'il va tomber. C'est avec cela qu'il va tomber. La fosse qu'il avait creusée pour toi, il y sera enterré. J'ai dit, il y sera enterré. J'ai dit, il y sera enterré. Au nom de Jésus. La valeur de la sagesse. Vous voyez la sagesse, ça n'a pas sauvé simplement Esther, ça a sauvé toute sa lignée. Toute sa lignée, mes bien-aimés. Un homme qui est rempli de sagesse est un homme qui sait tenir sa langue. Un homme qui est rempli de sagesse est un homme qui sait dompter ses émotions. Alléluia. La maturité, bien-aimé, c'est ta capacité à savoir gérer tes émotions. Ce n'est pas ton âge, c'est ta capacité à gérer tes émotions et à gérer les situations auxquelles tu es confronté par rapport à tes émotions. Vous savez, il y a des gens, n'importe quoi, qui arrivent, ils se crient au scandale. Oh, je souffre, oh, je souffre. Il y en a d'autres qui ne disent pas, mais ils savent gérer dans le secret. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la maturité. C'est ça la maturité. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sale la retient, la contient. Cela signifie qu'il faut de la sagesse pour maîtriser ses émotions. Là, par exemple, la colère. Il faut également de la sagesse pour contrôler son comportement en public. Oh, pour contrôler son comportement en public. Allons-y dans le chapitre, Proverbe chapitre 17, le verset 28. Proverbe chapitre 17, le verset 28, il est l'insensé même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Est un homme intelligent. Regardez, Salomon dit ici que quand l'insensé est muet, il ne parle pas. On dit, ah, le gars, il est sage, il fait ça comme ça. Tout ce qu'on dit à la réunion. Vous savez, il y a des gens, ils ne parlent pas. Quand il se tait, tout ce qu'il vous dit, non, je vous écoute, je vous écoute. Vous avez peur de ce qui va sortir de sa bouche. C'est quand ça sort que tu dis, hey, depuis on faisait un conflit, on va parler même avec qui? Alléluia! Alléluia! L'insensé même, le fou, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Proverbe chapitre 16, le verset 23. Proverbe 16, le verset 23. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Sage de cœur, dans ton cœur, bien-aimé, lorsque tu es sage dans ton cœur, ça agit sur tes paroles. Lorsque tu es insensé dans ton cœur, ça agit dans tes paroles. Et dit ceci, lorsque celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Et bien-aimé, il ne suffit pas de crier chaque matin, c'est mon année d'établissement, c'est mon année d'établissement. Mais tu n'arrives pas à tenir en bride ta bouche, ton cœur, ton comportement. Certains ne vont pas établir cette année à cause de leur comportement, tout simplement. L'aspect sur lequel Dieu va établir cette année, c'est ça, sur leur comportement. Rien d'autre. Alléluia. Rien d'autre, ce sera sur leur capacité à arrêter de bavarder n'importe comment. Alléluia. 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 Vous savez, il y a des gens qui aiment trop se plaindre. Et parfois, c'est fatigant. Parce que pour un rien, la personne se plaint. Quand il y aura un vrai problème, il n'y aura personne pour t'aider. Parce que tu te plains trop. Alléluia. Cheveux, tu plains. Babouche, tu te plains. Plat à gauche, tu te plains. Quand il y aura un vrai problème, les gens vont dire, ah, dis donc, c'est comme ça que cette personne l'a fait tout le temps. Vraiment, je n'ai pas là-bas. Alléluia. Or, une telle personne n'est pas sage pour elle-même. N'est pas sage pour elle-même. N'est pas sage pour elle-même. La valeur de la sagesse est simplement la valeur et l'importance qu'on lui accorde. Il est important de noter que tout le monde n'apprécie pas la sagesse. Tout le monde n'apprécie pas la sagesse. Proverbe chapitre 1, le verset 7b. Proverbe 1, le verset 7b. La Bible dit, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Vous allez voir, quand vous allez faire preuve de sagesse quelque part, quelqu'un va dire, ah, tu penses que quoi, tu es plus intelligent que moi. Parlons, laisse voir. Tu penses que quoi, tu es en train de vouloir montrer que tu es au-dessus des autres. Parce que tu as juste fait une petite réflexion normale. Alléluia. Amen. La valeur de la sagesse réside dans les avantages qu'elle apporte à ses détenteurs et à l'humanité en général. La valeur de la sagesse, réelle de la sagesse, est incomparable pour les raisons suivantes. Alléluia. Que je m'apprête à vous citer, bien-aimés. Premièrement, la valeur de la sagesse est réelle, est incomparable, premièrement, parce que la vraie valeur de la sagesse dépend de loin de tous les métaux précieux comme l'or, l'argent et les rubis que les hommes gardent précieusement. Alléluia. Proverbe chapitre 3, le verset 15b, il dit, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Elle a tout plus de valeur que les objets de prix, bien-aimé. Vous pouvez voir quelqu'un, regardez, il y a certains gens, je vais vous expliquer. Est-ce que je peux continuer? N'allez pas vous fâcher, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes, même la manière qu'ils s'habillent montre qu'ils ne sont pas sages. Alléluia. C'est-à-dire que même leur sagesse se reflète sur leur habillement. Comment tu peux mettre telle couleur? Alléluia. Telle couleur, tout le monde voit que, ok, tout le monde va te regarder comme un fou. Tu vas voir tout le monde comme ça. La personne, tu ne vas pas bien. Parce que les couleurs-là ne s'agencent pas. Alléluia. Les couleurs-là ne vont pas bien. Ne vont pas bien. Le pantalon-là et le haut-là, ce n'est pas ça. La chemise-là et le bas, ce n'est pas la même chose. Et le reste, ce n'est pas ça. Alléluia. Vous voyez, la sagesse est une forme de vie, est une forme de comportement. Alléluia. La valeur réelle de la sagesse est incomparable pour une deuxième raison. Contrairement aux autres métaux précieux qui sont apprécié en termes de possession matérielle, la sagesse apporte à ses détenteurs plus que des bénédictions matérielles. Plus que des bénédictions matérielles. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 12. Ecclésiaste 7, le verset 12 déclare que « Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. » À l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. La sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Alléluia. La possession de la sagesse est une garantie de la bénédiction. Est une garantie de la bénédiction. Proverbe chapitre 3, le verset 18b, déclare, ceux qui s'attachent à elle, la sagesse, seront bénis. Ceux qui s'attachent à la sagesse seront bénis. Alléluia. Vous voyez, bien aimé, l'argent et ses complices ne garantissent pas le vrai bonheur, mais la sagesse est la garantie du vrai bonheur. La version King James de ce même texte, de Proverbe 3, le verset 18b, interprété veut simplement dire, heureux celui qui la retient, heureux celui qui la possède, la sagesse. Alléluia. Béni soit celui qui possède la sagesse. Une autre raison pour laquelle la valeur réelle de la sagesse est incomparable. Alléluia. Contrairement, encore une fois de plus, aux autres métaux précieux qui sont extraits du sous-sol et traités par les hommes, la sagesse se trouve au-dessus de la terre et hors de portée de l'humanité et de toutes les autres créations. Elle se trouve où? Hors de la portée, elle se retrouve où? Sur le sol, sur la terre. Elle se retrouve au-dessus de la terre. Alléluia. Au-dessus de la terre. Job chapitre 28, le verset 1. Job 28, le verset 1. Alléluia. Le verset 1, qu'est-ce qu'il dit ceci? Job dit, il y a pour l'argent une mine d'où on fait sortir et pour l'or un lieu où, d'où on l'extrait pour l'affiner. Vous voyez? Il y a un lieu pour l'argent, il y a un lieu pour l'or, mais il n'y a pas un lieu pour la sagesse. La sagesse est au-dessus de nous. Alléluia. Alléluia. La sagesse est au-dessus de nous. Si vous lisez du verset 1 jusqu'au verset 12, vous comprendrez. Il va parler plusieurs fois de la sagesse sur tous les autres animaux de la terre. Il parle des trésors de la terre. Et au verset 12, il dit, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Le verset 12, il dit, où est la demeure de l'intelligence? Il s'interroge. L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Alléluia. Elle ne se trouve pas sur la terre ou dans la terre des vivants. La Bible dit, elle, la sagesse n'est point en moi. C'est-à-dire que même l'enfer, même la mort dit que la sagesse n'est pas ici. Alléluia. Et il dit, et la main dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre des bijoux. Elle ne peut s'échapper, s'échanger pour un vase d'or fin. Vous voyez, verset 20. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux du tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Bien-aimé. Et lorsque vous arrivez au verset 28, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Alléluia. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Dieu nous amène quelque part cette année, mais on a besoin de sagesse pour pouvoir saisir ce que le Seigneur a pour nous. Si tu manques de sagesse, l'année va se répéter pour toi. L'année va se répéter sur des choses que tu aurais dû avoir aujourd'hui. Cela signifie que la sagesse est inestimable et incomparable. Comment pouvons-nous donc apprécier la sagesse? Selon Jean, selon Jésus, dans Luc chapitre 7, le verset 35, la sagesse est appréciée par ses enfants. Ses fruits, c'est-à-dire par les bienfaits qu'elle apporte à ceux qui la possèdent et à l'humanité. Vous voyez, bien aimé, trois raisons importantes. Maintenant, quels sont les avantages de la sagesse? Vous devez savoir que la sagesse a des avantages importants dans notre vécu au quotidien. Alléluia. Premièrement, l'avantage de la sagesse, c'est qu'elle donne la vie et les bénédictions à ceux qui la possèdent. Alléluia. À ceux qui la possèdent. Proverbe 3, le verset 18. Déclare ceci, elle, la sagesse, est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Sont heureux. Alléluia. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Mais bien aimé, tu as besoin de la sagesse. La question est la suivante, quel genre de vie et de bénédiction la sagesse confère-t-elle à ceux qui la possèdent? Elle est un arbre de vie. La vie. La sagesse t'apporte la vie. Alléluia. La vie nous indique quel genre de vie la sagesse qu'on fait. Premièrement, c'est la vie éternelle. Genèse chapitre 2, verset 9. Dieu donne la vie à l'homme. 3, verset 22. Il donne la vie à l'homme. Deuxièmement, c'est une vie victorieuse. La vie de Dieu. Alléluia. Troisièmement, c'est une vie féconde et saine. Apocalypse chapitre 22, le verset 2. Quatrièmement, c'est une vie de pureté et de liberté. Proverbe 22, le verset 14. Proverbe 22, le verset 14. Cinquièmement, c'est une vie de longévité. Alléluia. C'est une vie de longévité. Proverbe 3, le verset 16a. Proverbe 3, le verset 16a. Quel type de vie? Allons-y. Premièrement, la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. La Bible nous dit clairement dans Proverbe 3, 18 que la sagesse est un arbre de vie. De quelle vie il s'agit? Premièrement, la vie éternelle. Alléluia. Genèse 2, le verset 9. Genèse 2, le verset 9. Genèse 3, le verset 22. Alléluia. Deuxièmement, c'est une vie victorieuse. C'est une vie comment? Victorieuse. La vie de Dieu, en l'occurrence. Apocalypse chapitre 2, le verset 7. Apocalypse 2, le verset 7. Alléluia. Troisièmement, c'est quoi? C'est une vie féconde et saine. Une vie féconde et saine. Apocalypse 22, le verset 2. Apocalypse 22, le verset 2. Quatrièmement, c'est une vie de pureté et de liberté. C'est une vie de pureté et de liberté. Apocalypse 22, le verset 14. Apocalypse 22, le verset 14. Alléluia. Cinquièmement, c'est une vie de longévité. Alléluia. Celui qui a la sagesse va vivre longtemps, hein? Mais celui qui est insensé, sa vie va être prématurée sur la terre. Alléluia. Proverbe 3, le verset 16a. Proverbe 3, le verset 16a. Amen. Alors, qu'en est-il des bénédictions que la sagesse confère? La Bible nous dit que la bénédiction a de la sagesse. La sagesse a des bénédictions. Alléluia. La sagesse a des bénédictions. Premièrement, la première bénédiction que la sagesse confère, une longue vie. La sagesse et la gloire. La richesse et la gloire. Une longue vie, la richesse et la gloire. Proverbe chapitre 3, le verset 16b. Proverbe 3, le verset 16b. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement ceci. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. La richesse et la gloire. Alléluia. Vous voyez? Les biens durables, la justice. Alléluia. Proverbe 8, le verset 18 à 21 nous parle, ajoute plutôt la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Alléluia. Proverbe 8, le verset 18 à 21. Deuxième avantage de la sagesse, bien-aimée. La sagesse exalte et honore ceux qui la possèdent. La sagesse exalte et honore ceux qui la possèdent. Alléluia. Honore ceux qui la possèdent. Proverbe chapitre 4, le verset 8. Proverbe 4, le verset 8. Il dit, exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Alléluia. Exalte-la. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle sera ta promotion. Alléluia. Elle sera ta promotion. Amen. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Si tu l'embrasses, la sagesse. Alléluia. Rappelez-vous de deux hommes qui étaient remplis de sagesse dans la saison de David. Alléluia. Le premier était Achitophel. Le deuxième était Hushaï. Est-ce que vous savez qu'Achitophel était un membre de la famille de David? C'est-à-dire, il était un beau frère dans la vie de David. Alléluia. Donc, quand il a cherché à tuer David, c'était parce qu'il se sentait mal à l'aise par rapport à un acte que David avait causé dans sa famille. Alléluia. Concernant comment on appelait la fille là? On va revenir une autre fois. Alléluia. Donc, Hushaï, Achitophel et Hushaï étaient deux hommes remplis de sagesse. La Bible nous dit même d'ailleurs que les conseils d'Achitophel étaient comme les paroles du Seigneur. Alléluia. C'était comme les paroles du Seigneur au pont David, lorsqu'on lui a dit que c'était lui qui conseillait son fils Absalom. Ah, David a fait une prière. Il a dit, Seigneur, anéantis le conseil d'Achitophel, parce que s'il a fait la marche, je suis mort. Alléluia. David savait que si Absalom obéissait à Achitophel, sa vie ne pouvait pas faire deux jours. Parce que Absalom était rempli d'une sagesse pour organiser les choses. C'est pourquoi David, avant de partir en exil, il va renvoyer un de ses lieutenants qui s'appelait Hushaï, qui est aussi un homme de sagesse, pour contrer la sagesse d'Achitophel. Il va dire, va rester à côté d'Absalom. Quand Achitophel va parler, toi aussi parle. Et c'est à cause de la contre-parole d'Hushaï que David avait toujours le temps de fuir. Alléluia. Au point où un jour Achitophel a dit que non, à cette allure, roi, comme tu n'écoutes pas mes conseils, ça ne vaut pas la peine, je ne vais pas me pendre. Alléluia. Alléluia. Voici un bref résumé du curriculum vitae d'Achitophel. Amen. Premièrement, il était le conseiller du roi David. Ses conseils avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même, c'est-à-dire comme les oracles de Dieu. De Samuel chapitre 16, le verset 23. Tu n'avais plus besoin d'aller consulter Dieu. Lorsque tu avais Achitophel, tu avais la pensée de Dieu. Il y a des hommes comme ça. Hein? Tu n'as pas besoin de... Quand il te donne un conseil, c'est Dieu qui t'éclaire. Alléluia. Il donnait de bons conseils. De Samuel chapitre 17, le verset 14. C'est-à-dire sa présence dans n'importe quelle réunion où lieu était stimulant. Sa présence dans le complot d'Absalom menaçait. Sa présence dans le complot d'Absalom menaçait David plus que tout autre. David ne craignait pas les autres, mais craignait Achitophel. Il craignait le type là. Alléluia. Et au point qu'il pria Dieu de transformer le conseil de David en folie, d'Achitophel en folie. De Samuel chapitre 15, le verset 31. Et planta immédiatement un pion en la personne d'Hushaï. Lui-même va planter sa part de pion que mon frère, si tu vas avec moi, Achitophel va nous tuer nous tous. Reste à côté d'Absalom et contre les conseils d'Absalom. Et comme Absalom, d'Achitophel, et comme Absalom n'était pas très intelligent. Amen. S'il avait un tout petit peu été intelligent comme David, son père, on n'aurait jamais pu compter David de ce monde. Parce que les conseils que Absalom donnait étaient tellement justes que même quand David était fatigué, il le savait. Amen. Il le savait. Un jour, il va dire au roi, « Roi, donne-moi quelques soldats, je cours derrière David et je le tue aujourd'hui parce qu'il est fatigué. » Et le roi va dire, « Ok, d'accord. Je vais aussi demander à Hushaï. Hushaï, toi-même, dis-moi quelque chose. » Hushaï dit que, « Ah, roi, ce qu'Absalom dit est correct, mais tu connais ton père, c'est un soldat. Il ne dort pas. Si tu pars maintenant, il est même d'abord énervé là où il est. Donc, laisse il se repose. » Et c'est comme ça que le roi dit, non, Hushaï, tu as raison. Absalom, laisse tomber. Et Hushaï envoyait une personne, un espion, on va dire, pour aller dire à David, quitte, viens, vite de là, va loin, te reposer. Absalom a trahi ton secret. Alléluia. 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 Maintenant, regardons un peu le curriculum vitae de Hushaï. Il était l'ami du roi David. Il était utile, fidèle et fiable. Il était une voix partout où il se trouvait. C'était un homme intelligent et perspicace. Vous le verrez dans 2 Samuel 15, 2 Samuel 17. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse. Non seulement nous en avons besoin, mais nous avons besoin autour de nous des personnes sages. Alléluia. La Bible dit la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Amen. Mais parfois, le trop grand nombre de conseillers est également un facteur de déstabilisation. Absalom a voulu respecter cette notion de plusieurs conseillers. Il s'est retrouvé où? Avec des idées contraires. Il n'avait plus le bon choix. Et il connaissait la sagesse de ces deux hommes. Il savait que ces deux hommes étaient d'une sagesse incroyable. Mais en aucun jour, devant Absalom, ces deux hommes s'entendaient. Non, ils ne s'entendaient pas. Alors, pour que cette année soit une année correcte pour toi, tu dois être rempli de sagesse. Non seulement tu dois être rempli de sagesse, que Dieu te donne des hommes sages et des femmes sages autour de toi. Alléluia. Voilà, maintenant, il ne suffit pas d'avoir des hommes et des femmes sages à côté de soi. Il faut aussi obéir à ce qu'ils te disent. Le problème, c'est ça. C'est que beaucoup ne veulent plus écouter les autres. Alléluia. Beaucoup ne veulent plus écouter les autres. Quelqu'un est venu me consulter ici une fois, partager avec moi. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu ne viens pas à l'église? Pourquoi tu veux toujours venir me rencontrer seul à seul? Pourquoi tu ne viens pas écouter la parole? Ah, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai dit que voilà, merci ta réponse. Tu réponds d'insensé, tu viens de sceller ton cas. Le jour où tu me verras encore en face de toi comme ça, je n'aurai plus ton temps. Amen. Alléluia. J'ai dit non, je ne peux plus. Parce que tu n'es pas correct. Tu ne veux pas venir écouter la parole de Dieu, mais tu veux consulter l'homme de Dieu comme un marabout. Ça ne marche pas. Amen. Il y a des choses que tu ne peux apprendre qu'à l'église. En étant au milieu des frères, en étant au milieu des sœurs. Alléluia. Oui. Tu te crois trop important, tu ne viens pas à l'église. C'est que ton problème n'est pas encore grave. Alléluia. Un jour, nous nous sommes retrouvés chez un marabout pour la prière. On est arrivé chez le marabout, il avait plein de malades. Et parmi les malades, il y avait les femmes des grandes autorités de ce pays là-bas, assises en train de déplumer le poulet qu'ils devaient manger parce qu'elles voulaient la guérison. Les autres étaient en train de dépecer la chèvre. Même si tu n'avais jamais appris là-bas, tu vas apprendre, tu veux guérir, non? Hein? Et nous, on passait comme ça au milieu de ces patients. C'était le genre que c'était loin là-bas dans la forêt du Nyon et Kélé. Alléluia. Loin à l'intérieur là-bas. Pour arriver là-bas, tu marches d'abord à pied. Donc, si tu dois rentrer, tu t'énerves, tu veux rentrer. Bon, ok, la route est devant toi. Amen. On arrivait là-bas qu'avec les 4x4. Et le monsieur, il avait tout un cortège de serviteurs. Et les femmes des autorités étaient ses servantes. C'était un dieu. C'était un dieu. Et je suis resté comme ça. Dit, ah. J'étais avec mon ami. Quand on est arrivé, on est allé vers lui. On a dit que c'était le beau-frère de mon papa, papa César. C'était son beau-frère. On venait pour la délivrance familiale. Ton beau-frère, c'est un géant. Ah, il faut choisir les familles. Hein. Dis à ton voisin, il faut choisir les familles. Quand tu veux entrer dans une famille, dis que qui est un géant? Est-ce que tu as les voyants et les marabouts dans ta maison? Amen. Et nous avons prié là-bas. Et Dieu a guéri plein de gens là-bas sur place. Le marabout a pris son fusil. Il est entré en forêt. Il a disparu. On a passé toute la nuit de louange là-bas. Mon ami et moi, on est entré dans le lieu sacré. Il a dit, allons prier que dans son lieu, dans son lieu. Il dit, bro, tu as le sang à l'œil. Il dit, allons, c'est là-bas que c'est bon. On a pris nos bouteilles d'unction. Si elle devait mourir, c'est que je suis mort depuis. Un homme comme ça, que quand on dit que donne ta vie à Jésus, tu dis que je sais mon maître. Vous connaissez votre maître. Vous ne connaissez pas votre maître. Moi, je connais mon maître. On est resté. Là, quelqu'un qui part en forêt seul, il tue un éléphant, il rentre seul. C'est normal. Un chasseur de nuit. On est resté là, on a prié. Prié dans son sanctuaire. prier dans son... Aujourd'hui, on a construit une belle maison là-bas. Aujourd'hui, on a construit, on a rasé. Et cet homme est tombé un moment, il est mort. Aujourd'hui, il est enterré. Alléluia. Mais bien aimé, tu as besoin autour de toi des personnes sages. Et tu dois avoir le cœur facile à appliquer les instructions qui te sont données. Alléluia. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, la chose qui dérange le plus, c'est que beaucoup de gens écoutent, mais ne mettent pas en pratique. Ils écoutent. Est-ce que vous savez qu'en moyenne, un chrétien dans ton église, en moyenne, 5 pasteurs dehors? Je sais que je ne suis pas votre seul pasteur. Vous en avez sur Facebook. Vous en avez sur YouTube. Alléluia. Vous en avez personnellement. Qu'en plus de ce que je vous dis, vous allez le consulter pour qu'il confirme si ce qu'il dit est correct. Il n'y a pas de problème, c'est de bonne guerre. On vit dans une saison où, que tu veux ou pas, en moyenne, un chrétien à l'église, 5 pasteurs. J'ai dit 5. Donc, pour qu'un chrétien parte et qu'il revienne dans ton église, c'est qu'il a vu quelque chose en toi. Alléluia. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Non, ça nous concerne nous tous. Nous tous. On a tous sur Facebook. On aime leurs messages. On partage même. Alléluia. D'autres viennent même me poser les questions. Papa, j'ai écouté tel homme de Dieu dit que. Toi, tu dis que quoi? Ce n'est pas le parti politique. On vient nous mettre en conflit. Alléluia. Donc, nous, on est conscients qu'on n'est pas vos seuls pasteurs. D'autres, au moins, c'est un père spirituel. Il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas seulement pasteur, ils ont père spirituel. Alors, il est important pour nous de comprendre à la fin de tout ceci, bien-aimés, que dans tout cela, il faut une sagesse. Il faut quoi? Une sagesse. Une sagesse pour se comporter, pour se diriger, pour pouvoir marcher avec les autres. Si tu ne manques de sagesse, tu vas perdre tout. Alléluia. Tu vas tout perdre. Tout perdre. Tout perdre. Parfois, vous savez, les gens croient que on a besoin d'une chose qui va s'appliquer là. Non. Parfois, la sagesse va prendre du temps pour s'appliquer dans ta vie. Il faut être patient. Alléluia. Il faut être patient. Et je répète encore, dans la maison de Dieu, les gens écoutent beaucoup plus qu'ils ne mettent en pratique. Et ils choisissent les parties qui les arrangent. Je suis en train de parler, non? D'autres ont dans leur cerveau est calé sur une partie. Hein? Donc, tout le reste que papa là, c'est babadage pour toi. Alléluia. Non, si je comprends, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il a barricadé son cerveau. Il a mis la cale. Pap! Ah, papa, j'ai pris ma part. Tout le reste là. Oh, tu ne peux pas évoluer comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous avons tous besoin de sagesse. Mais la sagesse, elle n'est pas en partie, elle est totale. Elle est comment? Totale et entière. Ne choisis pas ce que tu vas appliquer et ce que tu ne veux pas appliquer. Prends tout et mets-le en pratique. Vous voyez? La sagesse a distingué Salomon. Nous tous, on est contents de célébrer Salomon. Salomon, l'homme le plus sage de la terre. Mais vous croyez que Salomon, il a ramassé la sagesse une seule partie. Il a tout pris ce que son père lui a donné comme instruction. Son père, avant de partir, lui a dit, « Mon fils, voici les instructions que tu dois appliquer dans ta vie. Toi, tu n'écoutes aucune instruction. C'est quand ça pète devant toi que tu te rappelles de l'instruction. » Amen. C'est quand ça pète. Un jour, j'ai dit à un de mes fils, Et il me disait, ah papa, toi, je ne comprends pas. Chaque fois que je te dis quelque chose, tu fais comme si tu ne m'écoutes pas. J'ai dit, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si je ne t'écoute pas, mais je t'écoute. Alléluia. Mais seulement tu veux que je t'écoute comme tu veux que je t'écoute. Et tu veux que je penche le regard dans la direction que tu veux que je penche le regard. Oh, je dois avoir une vue globale de la situation. Alléluia. Je dois avoir une vue globale. Une vue globale. Un jour, il m'a dit, comment tu fais pour pouvoir gérer la qualité des gens qui viennent devant toi? Je lui ai dit, tu sais, tu me vois comme je pense. Il dit que oui. N'est-ce pas? Parfois, tu crois que je suis fou, n'est-ce pas? Il dit que oui. Je dis que fais comme moi, sois fou aussi. Amen. Il dit, parfois, je sais que tu crois que je suis bête, n'est-ce pas? Il dit que oui, parfois, il dit que non, tu es bête. Moi, je ne peux pas faire ça. Il dit, sois bête comme moi. Amen. Sois bête comme moi. Sois bête. La seule chose que quelqu'un ne peut jamais me voler, c'est mon cœur. Alléluia. Tu peux me voler mes vêtements, mon téléphone, ma maison, ma voiture, mais ma foi, tu ne peux pas la voler. Et c'est ça qui fait de moi, c'est ça qui fait de moi ce que je suis. Alléluia. C'est ça qui fait que tu peux partir, les autres 5 pasteurs, tu les laisses, tu reviens encore. Alléluia. Alléluia. Grandissons dans la sagesse. Grandissons dans la sagesse. Alors, je voulais dire à quelqu'un ce matin, la sagesse n'est pas simplement une vertu. La sagesse est une personne. Proverbes chapitre 8. Alléluia. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix contrairement à la femme adultère? Alléluia. Il dit, la sagesse n'écrit-elle pas? Est-ce que vous n'avez pas l'impression si qu'on parle d'une personne? Est-ce que la sagesse en tant que vertu crie? Est-ce que l'intelligence en tant que vertu a une voix? Non. Non. Qu'est-ce que cela signifie? La sagesse étant une personne, et cette personne c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Tu veux être sage, tu dois être rempli du Seigneur. Si tu es rempli du Seigneur, tu vas marcher dans la vérité, dans la justice du Seigneur. Alléluia. Moins Jésus est dans ton cœur, plus tu seras insensé dans tes actions. Plus Jésus est dans ton cœur, plus tu seras sage dans tes actions. Parce que tu auras toujours cette question qui va venir dans ton esprit. Et si Jésus était à ma place, qu'aurait-il fait? Amen. Qu'aurait-il fait? À ce moment-là, tu aurais la solution. Tu aurais la solution. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un à marcher dans la sagesse pour voir l'établissement dans sa vie en cette année. Alléluia. Pour voir l'établissement. La sagesse est un autre avantage. Embellit ses détenteurs. Embellit ses détenteurs d'une guirlande de grâce et d'une couronne de gloire. Alléluia. D'une guirlande de grâce et une couronne de gloire. Proverbe 4, le verset 9. La sagesse mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Vous voyez? Le diadème est une couronne. Alléluia. La grâce est tout simplement quoi? La faveur divine. Tu marches dans la sagesse, Dieu t'accorde sa faveur. Dieu t'accorde. Regardez dans le cas d'Esther, elle a marché dans la sagesse du Seigneur. Dieu lui a donné la faveur auprès du roi. Alléluia. Alléluia. Parfois la sagesse de Dieu veut que tu perdes maintenant cette situation. Tu perds dans cette situation-ci, mais tu la gagneras demain. Alléluia. Alléluia. Parfois, la sagesse de Dieu veut que tu aies tort dans cette situation, mais tu auras raison dans une autre. Et Dieu te rachètera même dans la situation dans laquelle tu avais eu tort hier. Alléluia. Alléluia. Je me souviens, il y a quelque temps, vous savez, la manière pour moi de gérer parfois souvent certaines choses, c'est après que moi-même je souris, parce que moi-même je constate la sagesse de Dieu dans ce qui se passe. Alléluia. Je me souviens quand ma fille Judith a eu beaucoup de chocs avec sa belle famille. C'était compliqué. Très, très compliqué. C'était une période extrêmement compliquée. Mais à chaque fois, je lui disais, tais-toi, rentre derrière. Tais-toi, rentre derrière. Alléluia. Et il disait, on n'a pas raison devant ses parents, ma fille. Alléluia. On n'a pas raison devant ses parents. Reste tranquille. Je l'ai prise. Je suis allé voir ses beaux-parents. Mets-toi à genoux. Et des beaux-parents, je demande pardon pour notre fille. Je demande pardon pour notre fille. Papa et maman ont dit que, hey, papa, pote, quand tu parles d'art comme ça, ça nous brise. Nous-mêmes, on n'a plus rien dans notre cœur la concernant. Nous-mêmes, on veut prier que Dieu la bénisse. Il dit, prions ensemble. Parce que cet enfant-ci, vous voyez son comportement-ci, c'est la prière qu'il lui faut. Alléluia. L'enfant-ci, c'est la prière. Les choses la dérangent. Prions pour elle. Maman prie. Maman a élevé la voix. Pam, 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 pam. Après, papa a levé. Il dit, papa, il prie comme il dit, répète la prière si avec moi, papa. Il répète. Après, je me tiens sur les deux prières de papa et maman. J'ai dit, Seigneur, fais grâce à cet enfant. Qu'elle aussi, demain, soit une maman qui va aussi accueillir d'autres chez elle. Et la situation s'est réglée. Aujourd'hui, elle rend visite à ses beaux-parents. Aujourd'hui, elle va là-bas. Les enfants vont là-bas. Alléluia! Tout est rentré. Et dans la même optique, dans la même saison, c'était grave avec son mari. Son mari disait que c'est fini. Comme elle a les problèmes avec mes parents, toi et moi, c'est bon. Les beaux-parents m'ont dit, et son mari, on fait comment? J'ai dit, laissez le dossier là. J'ai dit, c'est les parents maintenant qui disent, et leur fils. Parce qu'il avait déjà appelé pour dire, c'est fini. Et elle-même, elle avait bloqué, et lui-même l'a aussi bloqué. Donc, vous vous êtes bloqué. Alléluia. Bloqué, bloqué. Qui parle à qui? Calmez-vous. Un jour, j'ai pris le téléphone. Il m'a écrit. Il est en Afrique du Sud. Il m'a écrit. Il a dit, papa, je veux causer avec toi. J'ai trouvé le temps et on a discuté. Il dit, vraiment, la fille là, je ne comprends pas ma tête. Il y a des laisses. Tu sais que son vrai problème, je vais te dire la vérité, son vrai problème, c'est toi. Il dit que non. Il dit, papa, ce que tu dis est vrai. Moi-même, je suis conscient. Je dois rentrer, prendre soin de ma femme. Il dit, voilà. Si tu étais là, les antennes là ne pouvaient pas sortir de sa tête. Tu aurais eu le temps de frapper. Alléluia. Frapper et la faire la rentrer dedans. Il n'y a personne pour frapper. Papa et maman n'ont plus la force pour frapper. Toi, tu dois venir faire ton travail. Il a dit, j'ai compris. L'autre jour, on a encore discuté de ça. Alléluia. Un peu au courant. Mais je dis aujourd'hui. De temps en temps, on s'appelle. Le dossier, c'est elle. Poum, poum, poum. On remet les choses dans l'ordre. Alléluia. Il faut une sagesse pour cela. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, je vois les jeunes générations. Elles veulent toujours montrer qu'elles ont raison, qu'elles sont allées à l'école, qu'elles ont eu des diplômes. Le foyer, ça n'a rien à voir avec les diplômes. Amen. Le foyer, ça n'a rien à voir avec l'intelligence supérieure. Non. Le foyer a à voir avec un peu d'humilité, un peu de simplicité, beaucoup de pardon, beaucoup de discernement, et tu vas arriver. Et tu vas arriver. Quand tu entres dans le foyer, oublie que tu étais belle. Que tu étais top modèle auprès de tous les gars de ton quartier. Là-bas, tu es plus top modèle, c'est fini. Quand tu entres dans le foyer, oublie que tu étais musclé, que tu avais les tablettes. a fini là-bas dedans, ah, flocant, on marche dessus. Amen. Amen. T'inquiète pas. Tu as une femme comme Nafi. Elle va te donner beaucoup le couscous comme à Gabriel. Regardez le vent de Gabriel. Alléluia. Mes bien-aimés, la sagesse. La sagesse, nous en avons besoin pour savoir gérer nos relations. Vous savez, la plus grande grâce que Dieu doit donner et que chacun doit prier beaucoup dessus, c'est la sagesse pour garder les relations de sa vie. Et c'est là où beaucoup de gens échouent. C'est là où beaucoup de gens échouent. Pourquoi est-ce que c'était facile pour Jésus de traîner avec lui 12 gars gaillards qui étaient pour la plupart ses aînés? Alléluia! Qui étaient pour la plupart ses aînés sans en perdre un. Sans en perdre un, sauf celui qui a décidé d'être perdu. Chaque jour, tu changes les relations. L'ami, si. Et quand vous quittez, vous ne vous parlez même plus. Tu as dilé son numéro dans ton téléphone. Hey, tu vas où? L'amitié d'aujourd'hui peut être l'explosion de demain. Tu ne connais pas le lendemain. Pour un enfant de Dieu, aucune relation n'est le fruit d'un hasard. Aucune! Dieu met devant toi des relations qui vont sembler être étranges aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien pour impulser ça. Mais demain. Je vous ai posé une question si un jour, tu as ta copine, vous vous entendez bien, vous avez des sérieux problèmes, vous vous séparez, chacun part, vous ne vous parlez plus. La vie est correcte, non? Tu as déménagé, vous n'êtes même plus dans le même quartier. C'est bon, n'est-ce pas? Tant que vous ne vous êtes pas vu, tant que vous n'avez plus rien en commun, tout le monde va bien, n'est-ce pas? Un jour, tu as un dossier important et tu te retrouves dans un bureau et que c'est elle qui est le bureau où tu dois aller pour qu'on signe ton document. Tu l'appelles comment? Ma copine ou bien madame? Ou bien tu fais comme si tu ne la reconnais plus. Ah, les femmes sont fortes pour ça. Elles font comme ça. Bonjour, madame. Tu appelles qui, madame? Tu me reconnais? Non, mais ton visage me dit quelque chose. Hypocrisie. Hypocrite! Ah, c'est toi. Mais je ne l'ai pas reconnu. Hein. Tu l'as reconnu. Hypocrisie. Parce que tu ne veux pas demander pardon. Hein? Parce que tu ne veux pas reconnaître ta faute. Tu as besoin d'elle là maintenant. Tu fais comment? Dieu bénisse les hommes. Hallelujah. Dieu bénisse les hommes. Un homme, il arrive, il voit que gars, c'est comment? Et la situation, l'avion, pas prendre bien. On règle ça. Là. L'appel a fini. Amen. Même si tu entres dans le dossier, dans le bureau de cette amie-là, et qu'elle n'a pas compétence pour pouvoir accompagner ton dossier, tu vas mal prendre. J'ai dit, la femme là, elle m'aime pas. Voilà la preuve. Elle dit, non, c'est pas moi qui traite. Va voir ma camarade à côté. Tu vas pas aimer. Oh, tout cela, c'est la sagesse. La sagesse pour savoir garder des relations. Chaque jour, Dieu t'en donne. Dieu nous en donne chaque jour. Chaque jour. Pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes, Dieu a envoyé un homme. Pour bénir ta vie, Dieu va envoyer un homme. Attendez, je vous rassure. Dieu va toujours envoyer un homme pour sortir un homme d'une situation. Mais est-ce que tu vas reconnaître cet homme? Peut-être un ancien du passé. Tu gères ça comment? Je ne dis pas que tu rentres ce soir, tu cherches tes anciens du monde pour dire pardonnez-moi. On ne sait jamais, oh. L'homme déjà dit, on ne sait jamais. Alléluia. Non, je ne dis pas ça. Je dis, il faut être sage dans les relations que tu te donnes. même si ça doit se séparer, que le tort ne revienne pas de ton côté. Amen. Que le tort ne revienne pas de ton côté, de manière à ce que demain tu aies la liberté d'aller vers l'autre, lorsque tu en auras besoin. Alléluia. 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 L'autre jour, j'étais avec quelqu'un, je suis allé rencontrer une autre personne, une autorité avec une autre personne, et la personne était tellement contente. Et quand on rentrait, la personne m'a dit, « Ah, apôtre, est-ce que tu sais que tu as un don dans ta vie ?» J'ai dit, « C'est quoi ?» Il dit, « Le don de mettre les gens ensemble. » Alléluia. Il m'a dit, tu le fais d'une manière tellement naturelle. Et tu n'as pas de problème à cela. Tu as ce don de mettre les gens ensemble. Alors, si j'ai ce don, il y en a beaucoup qui ont le don de séparer les autres. Et c'est toi. Ah, non, tu ne peux même pas dire, oui, c'est moi. Toi, tu te connais. Vous allez voir des gens, le jour qu'ils entrent dans la vie de quelqu'un, ils ne te séparent de toutes tes relations du passé. Très dangereux. Alléluia. Lorsqu'ils entrent dans ta vie, ils te séparent des autres relations. Parce que la personne va être prioritaire dans ta vie, c'est dangereux. C'est dangereux. Maman connaît toutes mes relations du passé. Je ne dis pas les copines. Hein. Voilà les mauvais yeux. Amen. Toutes mes amitiés du passé, maman les connaît. Plusieurs, quand ils ont la possibilité d'arriver à la maison, ils viennent à la maison manger. Alléluia. Et beaucoup aujourd'hui ne me fréquentent pas à cause d'eux, mais à cause de ma foi. Le pasteur, pardon. Quand tu es là, tu gâtes l'ambiance. Tu gâtes l'ambiance. C'est pourquoi ils ne m'invitent même plus. Veillez comme ça, tu m'as dit des. Moi aussi, j'arrive. Quand j'arrive, c'est au moment où on venait demander, vous buvez quoi, vous buvez quoi. J'étais dépassé, tout le monde a pris Malta. Okay. Vous buvez maintenant, ah, les gars, je dis que c'était pas toi. C'est toi qui viens de gâter l'ambiance. Alléluia. Alléluia. Je suis dans le Seigneur aujourd'hui, mais j'ai gardé mes amis d'hier. Ils sont là. Il y a un qui me fait régulièrement. Une fois, il a eu un problème sérieux avec sa femme. Chaque fois qu'il a une crise dans sa maison ou bien dans ses affaires, il rapplique chez moi, il dort que sur mon fauteuil. C'est toi le pasteur, conseille-moi. J'ai dit, viens à l'église. Il dit, non, tu es mon ami, je reste ici. Je ne viens pas à l'église. Alléluia. Et chaque fois qu'il a les problèmes avec sa femme dit, va voir ton ami pasteur. Va voir ton ami pasteur, il va te conseiller. Et quand ça arrange, il ne me dit plus. Vous voyez la méchanceté des hommes. Et sa mère m'a appelé, il dit que mais le problème là, il dit que gars, ça s'est bien arrangé. Tous les conseils mis en application. C'est grave, c'est bien maintenant à la maison. Il dit, tu ne me dis plus. Il dit, je vais venir te voir. Amen. Et comme lui, il aime beaucoup le vin, il aime le vin. Donc, quand il a les problèmes, il dit, ma main, une bouteille de vin au frais. Il va venir. Il n'y a rien à boire chez toi. Il dit, non, il y a ton vin qu'on a laissé. Nous, on ne boit pas le vin. De quelques fois, quelques temps, on sort le vin. Et voilà, ma main me regarde une chose. C'est quoi? On sort un peu, il boit, il remet le reste. Il boit ça tout le temps de son problème à la maison. S'il va faire 3 jours, 4 jours, il boit que ça. Il babadi. Vous savez, quand un homme ou une femme a les problèmes avec sa femme ou son mari et qu'il trouve quelqu'un, une bonne oreille, il raconte. Mais Dieu est grand. Il reconnaît la main de Dieu. Et chaque fois, ils se rassoient, ils disent toujours, si tu as un problème, va voir notre ami. Il y a un autre qui est à Yaoundé. Il a vu plusieurs de mes publications. Il a dit que non, je dois venir te voir. Dis-moi le jour où je viens à Douala pour toi. Tu pries pour moi parce que mes démons sont forts. Il dit, comment tu peux délivrer les gens dans le monde entier? Nous, tes amis, on a les démons. C'est intéressant, n'est-ce pas? Combien d'amis de ton passé tu as? Est-ce que vous restez encore dans la droite ligne malgré cette amitié et respecte ta foi et toi, vous gardez votre amitié pour parler sainement? C'est ça aussi. Ce sont les tests aussi pour savoir si tu as la grâce de pouvoir, la sagesse pour garder les bonnes relations. Pas des amis que tout le temps tu dis, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, toi et moi on est fini, c'est fini entre nous. Non. Parce qu'avec les amis, le meilleur moyen de leur prêcher, c'est ton comportement. Ce n'est pas trop dire Jésus, Jésus, Jésus. Ça ne passe pas. Va dire ça à un étranger. Lui, il te connaît depuis le sein de ta mère. Et il y a un de mes amis, il passe souvent au travail de maman, il voit les collègues, il est aussi ami aux collègues de maman. Maman, un jour, reste comme ça, un de ses collègues lui raconte sa vie et ma vie. Il dit, mais comment tu nous... Il dit, mais tu ne connais pas tel, c'est lui qui est venu, il dit que ta collègue tel, c'est la femme de mon frère, c'est mon ami. Moi-même, j'étais là le jour où on l'a dotée, elle était habillée comme ça. Ton problème, c'est quoi? Alléluia. Mon ami, là, s'il arrive ici et que tu es à côté, il va te raconter toute ma vie. Amen. Lui, il est content seulement. Pour te dire qu'il me connaît. Lui, il veut te prouver que lui, là, je le connais. Je connais sa mère, son père, ses grands-parents. Je connais leur maison au village. Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une saison où pour pouvoir être établi dans notre destinée, nous devons savoir gérer les relations que Dieu nous donne. Gérer les relations que Dieu nous donne. Parce que tu as besoin de ces relations pour atteindre là où tu dois aller. Amen. Alors, je termine avec cette histoire. Un jour, Jésus devait organiser la Pâque et les disciples, il va s'arrêter quelque part au niveau du puits où il y avait cette dame, la femme samaritaine, et un de ses serviteurs va dire, où est-ce que nous allons passer la Pâque? Il va dire, entrez dans la ville. Lorsque vous allez entrer dans la ville, vous verrez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez cet homme. Amen. Suivez cet homme. Autrement dit, même Jésus avait besoin des hommes. Si Jésus a eu besoin des hommes, pour atteindre ses objectifs, toi aussi, tu as besoin des hommes. Alléluia. Alors, arrête de dire, oh, j'ai besoin de personne, je peux m'en sortir moi-même. Tu ne peux pas. La preuve, tu es là où tu es. Amen. Est-ce que vous savez qu'on a même besoin, on a plus besoin des méchants que des amis? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as plus besoin des détracteurs dans ton lieu de service que des amis dans ton lieu de service? Ce sont tes détracteurs et tes ennemis qui te font réfléchir, devenir plus intelligent et plus sage. Un jour, un pasteur a prêché cette histoire à une prédication. Il a fait une prédication et il nous a dit, tout le monde était choqué le jour-là. On était plein de pasteurs. Tout le monde dit, comment il peut dire? Il dit, de tous les amis de Jésus, celui qui l'a aimé le plus, c'était Judas. Et comment? Quelqu'un allait vendre? Il dit, oui, il n'y a que tes amis pour estimer le prix de ta vie. Amen. Tes vrais amis estiment combien tu coûtes. Cette femme-ci, si elle la vend, elle peut me rapporter une voiture. Alléluia. Mais tes amis vont dire, non, je t'aime trop, je t'aime trop, je ne peux pas te perdre. Tes vrais amis veulent te perdre. Et ce sont tes ennemis. Alléluia. Ils veulent te perdre. Tes faux amis. Oh, je ne veux pas te perdre, tu es un bon ami, vraiment, il t'aime trop jusqu'à la fin du monde. Ça ne peut pas. Le bon ami dit que tu coûtes combien? Parce qu'il doit aller te vendre. Il doit te trahir. Je dois te trahir. Et c'est très important. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un. à revoir son environnement, à revoir son comportement, à revoir sa manière de faire, d'être et d'agir. La vie ne s'arrête pas ici. Il y a un lendemain à tout. Et si tu gères par rapport à maintenant, demain tu vas faire comment? Amen. Demain tu vas regarder l'autre comment? Demain tu vas regarder l'autre comment? Demain tu vas regarder l'autre comment? Donc fais tout pour avoir une bonne attitude vis-à-vis des autres. Et surtout accepter de changer pour le meilleur de tout le monde. Alléluia. Ne reste pas dans tes principes. Tu crois que tes principes, ça gouverne le monde. Ça ne gouverne rien, rien que tes problèmes. Alléluia. Rien que tes problèmes. Change, évolue. Et changer aussi, c'est devenir mature. C'est devenir mature. Beaucoup de gens refusent de changer parce qu'ils veulent rester des enfants. Quand tu changes, tu te maturises. Tu acceptes d'affronter d'autres défis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.